Radio J, il est 21h.
Radio J.
Livre au Café des Psaumes. Radio J.
Alain Lefkovitch, livre au Café des Psaumes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au Café des Psaumes, donc où nous recevons aujourd'hui Déborah Lévy-Berterat. Bonjour.
Bonjour.
Pour votre ouvrage intitulé « Sur la route des vivants », un texte à la frontière de bien des styles d'écriture entre le roman familial, le livre historique, l'autobiographie et la fiction. C'est bien ça, vous qui êtes maîtresse de conférences de littérature comparée. C'est parce que quand on se met à la recherche d'un monde disparu qui est le sien, il est impossible d'invoquer une seule forme d'écriture. Et je rectifie, c'est sur la terre des vivants et non sur la route des vivants.
Oui, merci beaucoup. Alors c'est un très joli lapsus, ça me plaît beaucoup, parce que c'est aussi effectivement un voyage vers la terre des vivants, donc je vais peut-être garder ça pour un autre titre.
Et alors sur le style d'écriture,
Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il y avait l'envie que j'avais de chercher un mode d'écriture, mais il y a aussi le fait que les récits familiaux, il y en a déjà beaucoup, il y a déjà beaucoup de formes qui ont été essayées, et de façon admirable, et que j'avais pas forcément envie, ni l'envie, ni l'audace de refaire la même chose. Et à force de beaucoup tâtonner, j'ai trouvé une forme mixte un peu, qui consiste à raconter l'histoire un peu à la manière d'un roman. Le roman se raconte au présent, hein. Donc il y a une espèce de présent de narration qui est le propre de la fiction peut-être. Et puis d'intercaler des espèces d'interludes entre les chapitres qui sont à la première personne, qui sont mon point de vue et qui vont apporter un éclairage différent.
Voilà. Alors, sur la terre des vivants est une fresque familiale qui commence en 1903 et qui s'achève, qui est censée s'achever en 1984 avec le décès d'une des héroïnes du récit. Une fresque qui raconte le destin de vos arrière-grands-parents paternels, Elkan et Fit Lévy, gestionnaire mais pas propriétaire d'un hospice sur les rives de l'Elbe à Astona, tout près de Hambourg, parents d'une nombreuse fratrie. Un destin qui traverse les catastrophes et les traumatismes du XXe siècle, qui vont engloutir des mondes entiers, notamment pour ce qui nous concerne aujourd'hui avec votre livre, celui des Juifs allemands assimilés, qui ne supportent pas le Yiddish comme l'arrière-grand-mère.
Oui, c'était complètement allemand. Et alors j'ai même appris, mais après avoir fini le livre, qu'ils avaient des ascendances danoises. Donc là, il y a peut-être une autre histoire à raconter, mais je ne suis pas sûre que j'irai jusque-là. Donc c'était vraiment des gens qui, comme beaucoup ils s'appelaient israélites d'ailleurs. Le mot juif en yud était plutôt réservé aux juifs qui venaient d'Europe de l'Est. Se sentaient complètement allemands. Se sentaient complètement assimilés et étaient en Allemagne depuis le XVIIe siècle, voire avant.
Alors vous ne saviez rien de cette histoire familiale paternelle. Qu'est-ce qui vous décide à écrire? Parce qu'au départ, vous avez un rapport assez étrange avec l'Allemagne. Vous ne voulez pas y aller. Vous ne voulez pas rechercher parce que parfois, quand on trouve, ça fait peur ou ça fait mal. Alors qu'est-ce qui vous pousse à vous lancer dans cette aventure? Il y a un personnage important qui s'appelle Ruth et qui vous conseille le livre de la mémoire de Hambourg. C'est ça qui vous pousse à partir dans cette aventure, en tout cas?
Oui, je pense qu'il y a toute une série de petits cailloux en fait qui se sont mis sur ma route. Et là, on retrouve le mot Ruth, justement. Et puis, mon amie s'appelle Ruth, donc c'est magnifique. Donc, qui était ma collègue de bureau, allemande, germaniste, et dont la spécialité était, et est toujours, la mémoire de la Shoah en Allemagne. Et donc, on a beaucoup discuté. Et elle m'a aidé à commander à la mairie de Hambourg ce livre de souvenirs, qui, en fait, est une espèce de cimetière de papier avec les noms la liste des noms de toutes les victimes du nazisme de Hambourg. Et donc c'était un premier pas. Et puis il y a eu un autre caillou important qui était que j'ai eu, alors c'est peut-être que ça m'est venu avec l'âge, mais j'ai eu la curiosité de savoir s'il y avait des Stolperstein dans ces pierres d'achoppement, justement d'autres formes de cailloux dans
les pavés de mémoire.
Les pavés de mémoire dans les endroits où avait vécu ma famille. Donc j'ai écrit à la mairie de Hambourg pour le savoir. Et on m'a répondu que non, que ça pouvait être fait assez rapidement. Et tout de suite après, j'ai reçu un courrier, un mail d'une personne qui travaille pour les Stolperstein, qui est une activiste de la mémoire aussi de Hambourg, qui s'appelle Christina, et qui m'a dit, mais vous savez, il y a beaucoup de documents sur votre famille aux archives, ce que je n'imaginais pas un instant, et je peux vous aider à les consulter. Et je me suis sentie à ce moment-là d'une certaine façon obligée vis-à-vis d'elle, évidemment vis-à-vis de ma famille, de faire le voyage justement vers cette Allemagne que je considérais comme hostile, pas seulement à cause de la Shoah, mais parce que du côté de ma mère, c'est une famille française où mon arrière-grand-père et mon grand-père avaient été tués par les Allemands, donc ça, c'était un peu lourd. Et donc j'ai attendu 45 ans avant de mettre un pied en Allemagne. À Berlin, pas à Hambourg, et 55 ans avant de mettre un pied à Hambourg. Donc.
Alors c'est étonnant parce que vous dites que vous parlez de l'importance de ces Stolpersteine, et en même temps vous dites que vous en donnez la définition dans votre livre, et vous dites que c'est l'obstacle placé sur le chemin qui nous fait trébucher. Vous avez trébuché en les suivant ces pavés de la mémoire.
Oui, forcément, oui, c'est fait pour. On trébuche parce qu'on découvre des choses qu'on ne savait pas. Et puis on trébuche aussi parce que il y a tout un pan de l'histoire qui est tragique. Alors ça dépasse évidemment l'histoire de ma famille. Ma famille, c'est une parmi 6 millions, comme dirait Mendelssohn. Mais c'est aussi il y a quand même une situation particulière. Ensuite, ce qui fait trébucher, je pense, c'est aussi, paradoxalement, que j'appréhendais beaucoup ce voyage, j'appréhendais en particulier les archives, et qu'il y a eu une espèce de joie, d'atmosphère de retrouvailles. D'abord parce que Christina et sa collègue qui m'accueillait étaient particulièrement chaleureuses et drôles même. Et que c'était pour moi une espèce de miracle de retrouver tous ces documents, parfois des choses assez drôles comme des livrets de recettes, enfin des choses tout à fait inattendues, les bulletins de scolaires de ma grand-mère, etc. En me disant, mais les Allemands sont fous, ils archivent tout. Mais en même temps, voilà, j'ai trébuché un peu dans les deux sens, voilà, vers le bas et vers le haut, si on peut dire.
Alors, à la manière du photographe Roman Vichniac, vous partez donc à l'aventure, à la recherche de ce passé familial. Vous finissez par... avant de finir par le départ, il y a la question de l'archive et le point de départ, c'est aussi une photo. Une photo que vous prenez l'été 1972, vous avez alors 9 ans. Mm-hmm. Et sur cette photo, on voit trois vieilles dames. Alors, qui sont ces vieilles dames et pourquoi cette photo va être un des déclencheurs de cette aventure?
Alors, cette photo, elle représente les deux sœurs de mon grand-père, qui sont les deux seules de la fratrie que j'ai connue, Edith et Irma, et ma grand-mère, donc leur belle-sœur. Et en retrouvant cette photo, enfin, je ne l'avais jamais vraiment perdue, mais en la regardant mieux des années après, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il a fallu, mais ça c'est un peu les miracles de la technologie actuelle, on peut zoomer presque à l'infini sur une photo, sur un écran d'ordinateur. Et là, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. Et je trouve que tous les moyens sont bons. Enfin, j'avais peu de récits, pratiquement pas de récits. J'avais des photos avant d'avoir les archives, et puis donc ensuite les archives. Et zoomer sur les photos, c'est fascinant. Et là, je vois que ces trois vieilles dames dont je me souvenais, souriantes, posant pour moi, j'avais quand même un souvenir de la scène où je les avais photographiées. Mais en fait, non, il y en avait une qui ne souriait pas du tout, qui faisait même carrément la gueule. Et je me suis demandé pourquoi. Voilà, pourquoi il y avait comme un message à passer, que j'allais retrouver 50 ans plus tard, en, justement en faisant ce blow-up comme ça sur la photo. Qu'est-ce qu'elle voulait me dire ?
Alors vous finissez par vous rendre justement à Altona, sur les bords de l'Elbe. Pourquoi est-ce qu'il faut faire le voyage ? Pourquoi est-ce qu'il faut retourner sur les lieux ? Pourquoi est-ce que il y a ce désir de matérialiser un monde qui n'est plus ? Qu'est-ce que vous alliez rechercher en essayant de retrouver les lieux ?
Je ne sais pas ce que j'allais chercher. J'allais aux archives puisque j'étais invitée et puis je me suis dit on verra pour le reste. Alors évidemment après on va dans les rues, on essaye de retrouver l'endroit précis où était l'immeuble parce qu'évidemment ils ont tous été détruits, mais on essaie de retrouver au moins les emplacements. Et là aussi j'ai découvert beaucoup plus que je ne pensais. Parce que, c'est peut-être parce que je suis lectrice de Modiano, mais je cherche les traces là où elles sont presque invisibles. Donc dans une rue où il y avait presque plus rien, je vais essayer de retrouver, de refaire un trajet par exemple. Voilà, refaire le trajet que faisait mon arrière-grand-père depuis l'hospice jusqu'au marché aux poissons pour aller approvisionner les repas qu'elle devait préparer pour les pensionnaires. Des choses comme ça et voilà.
Vous faites plus que chercher des traces, puisque à un moment donné, vous racontez la mort de l'arrière-grand-père dans votre ouvrage. Vous vous saisissez d'une photo, vous utilisez l'intelligence artificielle pour essayer de faire parler cet arrière-grand-père et d'essayer de lire sur ses lèvres. Oui. Qu'est-ce que vous attendiez à quoi ? Vous vouliez lire quoi sur ses lèvres à cet arrière-grand-père ?
Bah, évidemment, je voulais lire un message de l'affection, je sais pas, des choses merveilleuse. Alors voilà, je reçois. C'est mon frère qui avait fait ça avec un autre grand-père. Donc je me dis tiens, c'est une bonne idée. Je vais faire des essais. Et le premier essai que je fais, c'était sur Elkan, donc notre arrière-grand-père. Et c'était très convaincant. Et cette photo, c'était l'unique photo que j'avais de lui. Donc un monsieur âgé. Et souriant, ce qui à l'époque ne se faisait pas tellement, on ne souriait pas tellement sur les photos. Et ces 12 secondes de vidéo d'intelligence artificielle, donc cette espèce comme ça de deepfake, c'est un deepfake, oui, il a vraiment l'air de nous faire passer un mot. Alors il faudrait savoir lire sur les lèvres, et puis on serait sans doute déçus, parce qu'évidemment, ça ne veut sans doute rien dire. Mais c'était comme un signe voilà, qui nous aurait envoyé. Et alors après, j'ai essayé avec d'autres, et ça n'a pas marché du tout. C'était très décevant, ils avaient trois oreilles. Enfin, voilà.
Alors ces photos, elles vous donnent des indications, mais aussi elles oblitèrent un certain nombre de choses, notamment le rapport au judaïsme que pouvait avoir cette famille, Lévi. Vous pensiez que c'était une famille complètement athée, puisque les photos ne vous donnent aucune indication sur le rapport au judaïsme, et vous découvrez que la religion a une place, que le judaïsme a une place très importante, à quel rythme également la vie de la famille Lévi.
Oui, alors je dirais pas athée, parce que je pense qu'il y avait une pratique qui avait subsisté chez mes grands-parents, mais qui était un peu minimale et qui n'était pas fondamentale. Enfin, à part, ma grand-mère ne mangeait pas de porc, mais mon grand-père, paraît-il, en mangeait, par exemple. Donc, et c'était un rapport, disons, très... ils étaient peut-être plus laïcisés que athées, mais... La maison de retraite que tenaient mes arrière-grands-parents, c'était une maison de retraite de la communauté israélite-allemande d'Altona, puisqu'il y a aussi une communauté séfarade. Christina m'a retrouvé le livret d'instruction. C'est très précis. Il y a les prières, il y a la cache-route qui est très très contraignante. Chaque repas doit être béni. Évidemment, le Shabbat, on ne peut plus allumer les feux, etc. Donc oui, ils étaient vraiment imprégnés de religion. Et effectivement, sur les photos, on ne voit rien. Il n'y a pas la moindre kippa, pas la moindre barbe. Ils ont l'air tout à fait modernes.
Alors, vous abordez la question de cet hospice que gèrent vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. C'est là où est née Irma, une des héroïnes de votre récit. Et c'est un lieu important parce que c'est un hospice qui est la frontière entre la vie et la mort, puisque juste derrière l'hospice, il y a le cimetière juif. Donc vos arrière-grands-parents ont une vue plongeante sur le cimetière juif. C'est la frontière entre la vie et la mort. Et d'ailleurs, une des sœurs d'Irma est persuadée que vos arrière-grands-parents qui possèdent la clé du cimetière connaissent le secret du passage entre la vie et la mort. C'est un lieu complètement étonnant, cet hospice.
Alors ça, c'est quelque chose que j'ai complètement découvert grâce aux archives, parce que bon, je savais simplement qu'ils géraient un asile de vieillards, parce que ma grand-mère me l'avait dit, mais j'avais aucun détail. Et aux archives, j'ai découvert la photo du bâtiment, de l'immeuble, donc qui n'existe plus. Donc j'ai pu compter les fenêtres, les étages, etc. Le plan. Plan de la rue et plan détaillé de l'intérieur du bâtiment avec les pièces, parce qu'il y avait eu des travaux, tout avait été déposé. Donc c'est extraordinaire comme document. On voyait où était la cuisine, où était la salle de bain, où était voilà. Et donc on peut imaginer que forcément la salle de bain était partagée avec les pensionnaires, par exemple, et la cuisine aussi. Et donc cette maison n'était pas seulement un asile de vieillards, mais aussi le sas, puisqu'il n'y avait pas d'autre entrée pour le cimetière juif allemand que de traverser la maison. Et mon grand-père devait accompagner les visiteurs qui allaient sur les tombes de leurs proches au cimetière. Donc on traversait l'immeuble, la cour, et ensuite, avec une petite clé, il ouvrait le portillon qui allait vers les tombes. Et d'autre part, il était aussi ordonnateur de pompes funèbres. Donc sa femme prenait soin des vieillards jusqu'à la mort et un peu au-delà, puisque probablement elle était chargée du soin des cadavres. Et ensuite, lui prenait le relais avec l'enterrement. Donc c'était un peu les douaniers de la grande frontière. J'ai trouvé que c'était quand même un peu fou comme métier. Voilà.
Alors le récit traverse le XXe siècle, on l'a dit, il commence en 1903 avec la naissance d'Irma. Et puis la famille a subi les vicissitudes de l'histoire. Certains vont quitter l'Allemagne nazie pour l'Angleterre. Votre arrière-grand-mère va même en 1935 tenter un voyage en Palestine, et puis elle reviendra parce que la Palestine pour elle, c'est pas chez elle. Elle se sent profondément allemande et donc elle revient chez elle. Et puis Irma et votre arrière-grand-mère vont finir à Theresienstadt, au camp de Theresienstadt. Et alors là, dans le récit, il y a quelque chose de très important, puisque ce récit commence avec une espèce de mythe, celui qui consiste à dire qu'Irma aurait suivi sa mère volontairement au camp de Theresienstadt, oui, alors qu'elle aurait pu y échapper. Un peu comme le sacrifice d'Isaac dans la Bible. Vous découvrez que ce n'est pas forcément le cas.
C'est ça. Ça, c'était là pour le coup, c'était un achoppement décevant, parce que il y avait cette légende, et là, je l'ai entendu, y compris de cousines que j'ai rencontrées à l'occasion de l'écriture du livre, c'est que Irma s'était imposée sur une liste de déportés pour partir avec sa mère. Or, c'est impossible pour une simple raison, c'est que sa mère habitait Hambourg et qu'elle habitait Cologne. Donc, elle a pu éventuellement la rejoindre. Effectivement, elle y est allée, mais plusieurs mois après sa mère. Et voilà, donc c'était d'un côté décevant, et puis j'ai essayé de me dire, mais en fait, elle a peut-être quand même eu un peu le choix des destinations, parce qu'elle était infirmière, peut-être que le conseil des anciens qui étaient préposés aux listes lui a laissé le choix, et qu'elle a choisi Theresienstadt pour rejoindre sa mère. Ça l'a sauvée dans ce cas-là, puisque toutes les autres destinations, ça aurait été des camps d'extermination. Sa mère est morte à Theresienstadt, mais elle a survécu. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu trouver pour essayer de recoller quelques petits morceaux de la légende, mais c'est sûr que la légende, on a pris un coup.
Alors, Irma est un personnage en quelque sorte central dans ce récit. Mmh.
Oui.
À 4 ans, lorsqu'elle rentre dans la chambre d'une de ses sœurs, elle trouve un livre, celui de Carlo Collodi, Les aventures de Pinocchio. Un livre qui va être d'une importance cruciale dans l'existence d'Irma. Mmh.
Alors oui, ça c'est la part de la fiction, puisque c'est ma vision d'Irma, c'est qu'elle ressemblait à Pinocchio. C'est une chose dont je me suis aperçue après coup, mais maintenant quand je regarde les photos, ça me paraît absolument flagrant. Elle était d'ailleurs très androgyne et très maigre, très voilà. Et Avec une gestuelle vraiment de Pantin. Et donc j'ai imaginé cette rencontre précoce avec le livre donc, qui s'appelait en allemand Hippeltitsch, et qu'elle se serait fait lire et qu'elle se serait trouvé un frère en fait, hein, une sorte de double dans ce personnage qui a la particularité de toujours frôler la mort et de toujours survivre in extremis. Voilà, il échappe à la corde, au feu, à la noyade, etc. Comme elle. Donc à plusieurs égards, je trouvais vraiment qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre eux.
Oui, parce que ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que lorsque on essaye d'écrire une histoire parcellaire dans laquelle il y a des gouffres, des vides colossaux, on est obligé de faire appel à la fiction, on est obligé d'imaginer, on est obligé de romancer pour combler les vides de l'histoire.
Je sais pas si on est obligé. En tout cas, moi, j'ai eu envie de le faire comme ça. Je pense que si on essaye de rester dans le pur factuel, on va faire un récit d'enquête. Et encore, il y a quand même encore forcément de la fictionnalisation inconsciente. Alors, disons que je l'ai assumé d'une certaine manière en le déclarant au début, en disant voilà, je vais bricoler, je vais broder, je vais remplir les parties manquantes, et forcément, je vais faire des erreurs. Voilà, donc c'était un peu une espèce de captatio benevolentiae comme ça en commençant. Et puis, voilà, j'ai assumé de d'écrire un récit fictif, mais fictionnel.
Alors Pinocchio devient un personnage aussi de la tradition juive, puisque Irma ne sait pas lire, alors elle va dans l'hospice et puis elle va trouver Madame Pincus qui lui lit les aventures de Pinocchio. Puis Madame Pincus, elle pense que Pinocchio, il est juif et qu'il est l'incarnation en bois du golem. Mmh. Ça pourrait être un personnage du judaïsme, Pinocchio.
Oui, c'est un Pinocchio. Elle voit un Pinocchio juif. Et il y a plein de bonnes raisons, parce que par exemple, il a une mère qui le culpabilise en permanence, qui lui dit qu'elle est morte parce qu'il l'avait abandonnée.
Alors.
Bien sûr, oui. Bah, forcément. Donc, voilà. Et, je sais pas, bon, après, ça peut peut-être aussi se faire dans les familles séfarades. Et qui va, par exemple, aussi qui va vouloir absolument offrir à son père un beau manteau avec des boutons de diamants. Ça pourrait être aussi quelque chose comme ça, un petit clin d'œil vers les tailleurs juifs. Donc il y a plusieurs indices que évidemment Madame Pincus s'amuse à développer. Et puis c'est l'objet d'une controverse entre deux vieilles de l'asile de Vieilla qui sont pas d'accord.
Alors Irma va perdre ce livre, et puis lorsqu'elle arrive à Theresienstadt, elle va pouvoir racheter ce livre, Les aventures de Pinocchio, qu'elle va lire, ou plutôt qu'elle va mimer aux enfants, puisque peu d'enfants de Theresienstadt parlent allemand. On continue dans la fiction. Pourquoi on a besoin de Pinocchio pour raconter Irma à Theresienstadt?
Là, c'est peut-être une façon de raconter de façon oblique les passages les plus graves, les plus compliqués aussi, parce qu'il y a une telle gravité à ce moment-là que j'ai essayé, disons, de contourner peut-être. Et Pinocchio était un moyen. Et j'ai assez tôt imaginé cette scène où elle racontait Pinocchio sous forme de mime. J'ai pensé évidemment au mime Marceau avec les enfants juifs de Lozé. C'était une façon, ça combinait plusieurs choses. Il y avait évidemment ce geste d'offrir aux enfants un récit dans un contexte dramatique, mais c'était aussi l'idée du mensonge qui est aussi inhérent au récit de Pinocchio, parce que ces enfants sont condamnés, et avec Pinocchio, elle leur apporte une histoire où la mort est réversible, ou en tout cas la mort peut être surmontée, on peut ressusciter. Pinocchio va dans une dernière pirouette encore survivre. Et donc, c'est une façon de leur mentir, mais de leur apporter un beau mensonge pour leur laisser l'espoir jusqu'au bout.
Contrairement à ce que vous dites de Theresienstadt, où vous dites que c'est le lieu de tous les simulacres.
Mmh. Et d'une certaine façon, elle y participe aussi. C'était un camp vitrine, donc avec ce film qui a été fait, avec la visite de la Croix-Rouge. Enfin, je me suis demandé ce qu'elle était devenue, elle, à ce moment-là. Quel avait été son rôle? Elle est évidemment pas dans le film, parce qu'elle était pas typée juive, et puis en plus, elle était beaucoup trop maigre, donc ça aurait fait désordre. Mais la plupart des personnes qui étaient là avant ont été exécutées, et pas elle. Donc elle fait partie des quelques personnes qui ont traversé pratiquement toute l'existence du camp.
Alors, elle va survivre. Et puis, après, ben, il y a la période de reconstruction. Il faut, il faut se remettre à vivre normalement, ce qui n'est pas évident. Elle finit par perdre la foi. Mais quand même, elle part en Palestine. Elle s'établit dans la ville de Haïfa. Et elle comprend pourquoi sa mère, à un moment donné, elle est retournée en Allemagne en 1935, après avoir tenté une expérience palestinienne. Pourquoi elle comprend à ce moment-là, à Haïfa, que sa mère n'ait pas pu vivre en Palestine ?
Là, j'ai un peu aussi extrapolé parce que il y avait Irma parlait hébreu, mais avec sa sœur, elle vivait dans Nahariya, qui était donc près de Haïfa, mais qui était une ville complètement allemande. Et je pense que ce choix était une façon de ne pas complètement s'intégrer à la société israélienne. Et je pense qu'elle est restée dans cette position-là. C'était une petite Allemagne en fait. Voilà, donc ça, je pense que c'est quelque chose qui était sensible, même si elle ne l'a jamais exprimé verbalement. Moi, je le sentais comme ça, oui, qu'elle restait éternellement nostalgique de Hambourg.
Alors, je suis parti directement en Palestine avant la création de l'État d'Israël en 1948,
oui.
Parce que, on va pas s'éterniser sur Theresienstadt, parce que vous avez refusé d'y aller. Vous êtes allé partout, pourquoi pas à Theresienstadt?
Alors, j'ai refusé, disons que ça m'a bien arrangé, c'est terrible de dire ça, mais que j'étais inscrite dans un groupe qui devait y aller et que la pandémie a éclaté juste à ce moment-là, donc le voyage a été annulé. Et j'avoue que j'étais très soulagée. Et je me suis dit, j'irai une autre fois, et je n'y suis pas encore allée. Je ne dis pas que je n'irai pas, mais j'ai peur d'être vraiment déçue, et évidemment j'ai de l'appréhension.
Déçue de quoi, par quoi?
Parce que ce que m'a dit Ruth, qui elle y est allée, c'est que tout est très propre et très, très, très nettoyé en quelque sorte, et que c'est difficile de s'imaginer ce que c'était.
Alors, je le disais en introduction, le livre est censé s'achever en 1984 avec la disparition d'Irma. Mm-hmm. Mais en fait, Déborah Lévy, Bertera, ce livre, vous dites qu'il n'est pas terminé, il est comme une ouverture sur encore plein de questions, plein d'interrogations. C'est pourquoi? C'est parce que ce genre de récit, cette recherche de vérité, ça se termine jamais, on est toujours à la recherche de quelque chose. Puisque vous dites à la fin du livre, il me reste énormément de choses à apprendre d'Irma, de ses sœurs, de mes arrière-grands-parents, c'est jamais fini. Histoire comme ça.
C'est jamais fini. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que je continue d'ailleurs depuis à trouver des documents, enfin à recevoir plutôt. Christina a continué de m'en envoyer et puis j'ai une cousine qui a perdu récemment son père à Montréal et qui m'a envoyé des photos de la famille que je ne connaissais pas. Et donc j'écris dans le livre, je n'ai aucune photo de fille jeune. Maintenant, j'en ai une. Je n'ai qu'une photo de mon arrière-grand-père. Maintenant, j'en ai deux. Etc. Donc, ça fait découvrir d'autres aspects. Voilà. Je ne sais pas si j'écrirai une suite, mais en tout cas, il y aurait de quoi, je pense.
Alors, vous dites que je reviens à la photo des trois vieilles dames du début qui vous a incité un petit peu à aller voir plus loin et à rechercher l'histoire de la famille Lévy. Vous dites que ces trois vies effacées, trois destins que l'histoire avec un grand H a oublié, c'est un peu le lot commun. De tout le monde, non?
Oui, absolument. C'est le lot de tout le monde. Et en fait, c'est une famille ordinaire. Bon, à part ce métier curieux. Mais j'avais envie de faire d'eux un peu les représentants des oubliés, des anonymes. Donc c'était aussi ça. Je pense que toute famille, sans doute, mériterait aussi qu'on la tire de l'oubli et qu'on raconte son histoire.
Alors se pose la question des archives, où chercher, comment chercher?
Oui, c'est vrai que là j'ai eu beaucoup de chance parce que non seulement il y avait des archives, mais en plus on m'a vraiment aidé à les trouver, à les déchiffrer. C'est pas partout possible, c'est vrai.
Eh bien écoutez, merci infiniment Déborah Lévy Bertera d'être venue nous parler donc aujourd'hui de votre route des vivants.
Terre des vivants.
Vous voyez, deux fois le même lapsus. Oui, oui. Donc
ça veut dire qu'il faut que je continue. Eh ben, le chemin n'est pas fini.
Voilà. Oui, donc oui. Merci pour cette terre des vivants. Oui. Et merci à François Veil aussi qui assurait ce matin la technique ici au Café des Psaumes. Merci beaucoup et à bientôt pour un prochain roman, peut-être sur cette route des vivants.
Merci à vous et avec plaisir.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8.
Radio J.
Médiasphère, Emmanuel Aumônier.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue pour ce nouveau numéro de Médiasphère. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux industries culturelles, à la télévision, aux jeux vidéo, aux plateformes, à leur présent et surtout à leur avenir. Pour cela, j'ai invité Alain Lediberder. Bonsoir,
bonsoir.
Alain Lediberder. Alors, vous êtes avec nous et on est très honoré de votre présence. Vous avez été conseiller de Jack Lang au ministère de la Culture. Vous avez été responsable des nouveaux programmes à Canal+, directeur des programmes également à Arte. Et puis, vous avez lancé des chaînes de télévision thématiques comme Game One, comme Allociné TV. Enfin, vous êtes évidemment l'auteur de plusieurs ouvrages, que ce soit sur la télévision, sur les jeux vidéo, l'économie des industries culturelles. C'est votre dernier ouvrage paru en 2019. Est-ce que aujourd'hui il y a, vous qui vous êtes intéressé aux industries culturelles toute votre vie, une industrie culturelle qui vous intéresse particulièrement ou qui vous préoccupe? Alors comme ça, on penserait immédiatement aux plateformes, même si ça commence à pu être tout à fait nouveau. Mais est-ce qu'il y en a une aujourd'hui qui pourrait faire l'objet d'un prochain livre ou d'une étude particulièrement?
Tout de suite, je pense à la situation de l'audiovisuel américain, qui est d'une manière catastrophique, en fait, pour les grands noms les plus connus, ceux qui sont connus depuis un siècle, les Warner, les Universal, les Paramount sont dans une situation en réalité terrible. Y a un bouleversement complet de l'économie et de la sociologie de l'audiovisuel américain. Compte tenu de son importance au niveau mondial, c'est, je pense, le sujet pour moi le plus important et le plus intéressant aujourd'hui. Sachant qu'aux États-Unis, la distinction entre cinéma, télévision, plateforme n'a pas de sens. Hein, tous ces groupes font tout ça. Alors, ils sont un petit peu déplumés depuis quelques années, mais avant, ils faisaient aussi la musique, ils faisaient aussi l'édition. Les grands éditeurs américains, à un moment ou à un autre, ont été acheté par Paramount, par Universal, ça a un peu changé. C'est-à-dire qu'en fait ils ont vendu Simon Schuster par exemple, ça reste quand même un secteur qui contrôle à peu près la totalité des industries culturelles marchandes en tout cas.
Et alors, quel est l'enjeu, du coup, aujourd'hui? Pourquoi c'est aussi intéressant à suivre? Qu'est-ce qui va se jouer, peut-être, dans l'avenir aussi démocratique des États-Unis?
Alors, il se joue plusieurs choses. D'une part, on a un secteur qui était très prospère dans les années 80, 90, même au début des années 2000, et qui ne l'est plus. Notamment les chaînes de télévision américaines, les networks ont dominé pendant 40 ans la tête des Américains. Aujourd'hui, par exemple, les trois grands réseaux ont perdu la moitié de leur audience en 7 ans. C'est pas une érosion, c'est un écroulement.
Un effondrement.
Pendant très longtemps, on disait que CBS, par exemple, le soir, ou NBC faisaient les élections. On se rappelle de...
Elles sont encore puissantes quand même, toutes ces grosses chaînes, ABC, non. NBC...
Non, elles sont...
Elles sont moribondes, selon...
Elles sont moribondes. Elles sont moribondes. Alors, d'une part, leur audience a beaucoup baissé, enfin considérablement baissé, mais en outre, leur sociologie, enfin la nature de leur public a aussi complètement évolué. C'est qu'en fait, les jeunes, enfin même les actifs, les moins de 50 ans ne regardent plus CBS, NBC.
Est-ce que c'est la même chose en France? Est-ce que les chaînes de télévision françaises ne sont plus regardées que par les vieux également et sont condamnées ou à changer de modèle ou à disparaître?
Alors, c'est une tendance de fond partout, donc y compris en France, mais disons, en France, c'est plus lent. Aux États-Unis, ça a été quand même très brutal. C'est-à-dire que il y a deux parties du paysage audiovisuel américain qui se sont écroulées. Ça a commencé par le câble pendant très longtemps, et encore maintenant, on croit que MTV, par exemple, ou Nickelodeon, ou Disney Channel, sont des chaînes importantes. En fait, elles valent plus rien. Mm. Là, par exemple, l'audience de Disney Channel a été divisée par 10. MTV n'existe quasiment plus. Mm. Donc ça, c'était ce qu'on appelait le câble, qui à un moment a représenté la moitié de l'audience américaine. Et d'autre part, il y avait les networks qui restaient quand même puissants. Mais les networks donc ont trois problèmes. Premièrement, donc la baisse de l'audience et son vieillissement. Deuxièmement, le système américain est complètement différent du système européen sur un point, c'est que les chaînes sont pratiquement toutes des chaînes payantes. Mm. Même les chaînes gratuites sont des chaînes payantes. Les networks jusqu'aux années 2010 avaient 50% de leurs recettes, c'était la pub, 50% de leurs recettes, c'était le reversement de redevances par les câbles opérateurs. Mm. C'était vraiment les deux. Alors c'était possible parce que le câble était reste extrêmement cher aux États-Unis. Alors ce qui fait, en France par exemple, TF1, M6 se sont dit, ben voilà notre avenir et on va aller demander une rémunération à Free, à Orange. Ils sont même battus, parfois en courant des risques, puisque des fois il y avait une interruption du service. Mais c'était une vision de l'esprit parce qu'en gros, le câble aux États-Unis, c'est $150 de revenus de par mois et par abonné. En France, c'est 35. Donc il y a pas grand-chose à se partager.
Et alors pour revenir à la France justement, vous aviez écrit à la fin des années 80 avec Nathalie Coste-Cerdan, briser les chaînes. Et ce que vous aviez vu se confirme un peu pour la France en tout cas. C'est-à-dire que la notion de chaîne tend à disparaître et on se retrouve avec des grands groupes comme TF1 par exemple qui doit avoir une dizaine de chaînes sur le câble ou la F1 ou ADSL. Et pour vous, les chaînes ne peuvent survivre que comme ça, en étant des groupes?
Oui, tout à fait. Alors, bon, c'est toujours un peu embêtant de s'auto-citer. Et on avait écrit en
C'est moi qui vous ai cité.
Oui, merci. Et on disait que on passait de la télévision du broadcast, donc des grandes chaînes au sens traditionnel, même le mot chaîne qui existe qu'en français et en espagnol, hein, qui n'existe pas dans le monde anglo-saxon, était condamné à être remplacé par ce qu'on appelait à l'époque les vidéoservices. Donc en 88, il n'y avait pas Internet. On n'a pas tout prévu, bien sûr, mais par contre, on a prévu cette disparition de la notion de chaîne. Il faut savoir que à l'époque de son zénith, la télévision, disons, des années 90, une chaîne, c'était un immeuble, c'était une entreprise, c'était une fréquence, c'était une image concrète, pratiquement. Le TF1 d'Hervé Bourges en 83 ou de Lelay en 93, c'était des institutions, des monolithes. Et ça a complètement disparu. Je prends un exemple, quand on dit Canal+. Quand j'étais à Canal+, c'était une chaîne. Il y avait une image de Canal+, mais c'était un canal, un service, etc. Aujourd'hui, quand on dit Canal+, les émissions dont on parle, elles sont sur C8, c'est Hanouna, elles sont sur CNews, c'est Pro, elles sont tellement sur Canal+.
Donc dans un groupe.
Et en fait, c'est vrai que M6, c'est W9 et RTL, TF1, c'est...
Et puis on peut même aller plus loin dans le cas du groupe justement et de CNews. Les émissions de CNews se retrouvent sur Europe 1 et inversement.
Mais ça c'est le présent, c'est pas tellement l'avenir, c'est le présent. La notion de chaîne, bloc vertical où se confondent l'aspect technologique, le canal, l'aspect éditorial, le programme et l'aspect entreprise, ça c'est mort.
Il y a quelque chose qui était intéressant avec la télévision et on peut penser que c'est toujours un peu le cas. C'est cette pas ce mythe, mais cette capacité qu'elle avait à réunir toute l'humanité autour d'un événement. Alors, on pense bien évidemment en 69, quand on a marché sur la Lune, il y avait toute la planète qui regardait. C'est toujours un peu le cas aujourd'hui, quand il y a des grands événements sportifs ou quand il y a des catastrophes. Là, encore plus récemment, quand il y a eu l'attaque du Hamas le 7 octobre, les chaînes infos sont très regardées. Quand il y a eu Charlie Hebdo, c'était aussi le cas. Les gens arrivent quand même encore un peu à communier avec la télévision, et c'est encore ça, on le trouve pas sur d'autres plateformes ou médias.
Non, c'est vrai. Dans l'histoire des médias, si on prend un peu de recul, la télévision est tout à fait exceptionnelle. Elle a à un moment occupé une place que avant ni la radio, ni la presse écrite, ni avant encore le théâtre n'ont occupé. C'est qu'à un moment elle était partout et tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, dès les années 80, par exemple, la télévision en France est devenue la principale activité éveillée. Il y avait, si vous prenez le budget temps des Français, il y a le sommeil à peu près 8 heures par, et il y a le travail, mais il y a que 40% de la population qui travaille. Et la télé, c'était plus que le travail. Donc ça, cette espèce d'hypertrophie de ce média le rend original, et ce qui fait qu'il décline, mais ça prend du temps, parce qu'il part de tellement haut que, comme vous le disiez, même maintenant où il y a plein de raisons de penser que les choses se rétrécissent, néanmoins, il y a que la télévision. Là, cette année, en mode, je parlais de CBS, ils ont quand même fait 120 millions de téléspectateurs sur le Super Bowl. Il y a de très très beaux restes encore. Hein.
Et est-ce qu'il faut s'inquiéter, justement, si on va un peu plus loin dans le raisonnement, de la disparition, ou en tout cas le remplacement progressif de la télévision par les plateformes, en se disant que ça va être une culture morcelée? C'est-à-dire que avant, bah, dans les années, il y a longtemps, mais dans les années 60, 70, on parlait tous du film qu'on avait vu la veille, parce qu'on avait tous vu le même, parce qu'on avait deux ou trois chaînes. Aujourd'hui, ne serait-ce que quand on va sur Netflix, si on est fan de science-fiction, on voit que de la science-fiction. Si on est fan de sport, on voit que du sport. Et il y a une espèce de culture de niche qui se développe par opposition à ce que représentait la télévision, c'est-à-dire la culture de masse.
Alors, oui, mais c'est surtout une parenthèse qui se referme, parce qu'en fait, c'est pas nouveau, cette situation. C'était celle qu'on avait avant la télévision. La France des années 50, où les gens n'avaient pas de téléviseur, elle était extrêmement morcelée. Mmh. Les gens qui lisaient la presse quotidienne régionale, la plupart ne lisaient pas la presse nationale. Les gens qui lisaient le Figaro ne lisaient pas l'Humanité. Les gens qui allaient au match de foot n'allaient pas du tout au théâtre ou à l'opéra, etc. Le morcellement, on y vient, on y est, mais c'est pas une nouveauté. C'est que la parenthèse enchantée de cette anomalie historique qui était la télévision des années 80, 70, 80, etc., se referme, c'est vrai, et il faut le regretter, mais on tombe pas dans un inconnu. C'est-à-dire que je pense pas que c'est pas vrai qu'à un moment il y ait eu une homogénéité des pratiques culturelles, par exemple. Elles étaient peut-être même plus diverses au début du XXe siècle qu'elles ne le sont aujourd'hui, malgré effectivement les chapelles. Mmh. D'ailleurs, même quand on creuse la télévision de l'époque de l'ORTF ou des années 80, les gens ne regardaient pas tous la même chose. Le public des émissions, de grandes émissions d'infos comme 5 colonnes à la une, c'était pas le public du sport. On a un peu mythifié cette idée qu'à un moment, tous les Français regardaient la même chose. Mmh. Oui, c'est plus que maintenant. Mais ouais, c'était quand même pas absolu. Le cinéma, par exemple, dans les années 60, le public dans les salles de la Nouvelle Vague, c'était pas le public de Disney.
Bien sûr. Alors justement, on va parler du cinéma, on va agrandir un peu l'écran et s'intéresser aux chiffres. Alors, on a retrouvé en France, dès 2023, des résultats qui étaient proches de ceux de la crise avant Covid pour la fréquentation des salles. 181 millions d'entrées. C'est-à-dire plus 19% par rapport à l'année précédente. Le cinéma français aussi se porte plutôt bien. Il a 40% de part de marché. Est-ce que il faut être optimiste, par contre, pour le cinéma? Est-ce que c'est une industrie qui se porte bien, qui existera toujours, qui est ancrée dans les pratiques?
Oui, oui, le cinéma, c'est une vieille bête. Hein. Elle a survécu aux guerres, elle a survécu à la pauvreté. En 1895, première séance
elle
de cinéma
mourir
en France.
À de multiples reprises, le cinéma.
Enfin, elle a été menacée dans son économie, souvent à multiples reprises, mais par contre, elle n'est jamais morte. On peut faire des films avec deux bouts de ficelle. La Chine de la fin du 19e siècle, qui était en totale décomposition, faisait des films deux ans après la première séance des Frères Lumière. Il y a du cinéma en Afrique, il y a du cinéma même en Haïti. Donc, c'est un domaine qui est extrêmement plastique. On peut jouer sur les devis, on peut jouer sur les techniques. Contrairement à l'industrie du jeu vidéo,
on va en parler juste après.
On compare souvent injustement. C'est beaucoup plus rigide le jeu vidéo. On peut pas faire un jeu vidéo. On peut plus faire depuis très longtemps un jeu vidéo avec moins d'un million d'euros par exemple. Tandis que le cinéma, la période d'avant Canal+. Ça semble être un désert où il n'y avait pas le financement de Canal+, il n'y avait pas encore les lois, les décrets, le compte de... Il est extrêmement brillant. Sans parler des années 60, mais Le Père Noël est une ordure, ça se fait en 82 avec des budgets 10 fois inférieurs de ceux d'aujourd'hui. On peut refaire demain un équivalent du Père Noël est une ordure avec des devis, de l'argent beaucoup plus faible. Cela dit, c'est pas ce qui se passe. En fait, il y a beaucoup d'argent dans le cinéma. Il va très bien. Ça va pas bien depuis 3 mois là. L'année 2024 est pas terrible, surtout pour les films français. Mais faut rappeler que le point le plus bas de la fréquentation, c'était les années 90. Et dans les années 90, c'est aussi une période où les devis explosent parce que Canal+ est à son zénith. Et donc la salle va très mal. Avant qu'on refasse des multiplex, mais par contre le cinéma va bien. L'économie du cinéma elle est très particulière parce que elle s'alimente à plein de sources. Maintenant il y a les plateformes.
Alors justement les plateformes, selon vous, est-ce qu'elles ont eu une influence sur la, enfin elles ont forcément eu une influence, mais sur la qualité de production des films. Est-ce que le cinéma, la manière de faire du cinéma, la manière dont travaillent les réalisateurs et les distributeurs aujourd'hui est différente parce que il y a un nouveau concurrent et que quelque part il faut un peu limiter pour rester dans le jeu.
Alors d'abord moi j'aime pas du tout le mot plateforme et je pense que c'est vraiment dommage que la loi française ait repris ce terme vague parce que si on parle du streaming de produits audiovisuels, il y a quand même 4 catégories totalement différentes, qui n'ont pas le même modèle économique, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas la même stratégie, qui n'ont pas le même effet sur l'environnement. Et alors, les 4 catégories, c'est, il y a une entreprise qui est une catégorie à elle seule, c'est Netflix, par rapport au cinéma, pose des problèmes spécifiques et en même temps résout certains problèmes. Il y a les majors, qui sont, pour elles, même si elles font le même produit à la fin, elles ont pas du tout la même économie, pas du tout les mêmes enjeux. Netflix se fiche totalement de la chronologie des médias. Tandis que les 4 majors, elles ont toujours vendu des films et elles continueront à le faire en salle parce que ça rapporte beaucoup d'argent et à court terme. Donc elles sont sensibles à la chronologie des médias. Après, vous avez
quand on parlait de chronologie, c'est le fait de sortir les films
en salle. Puis après, dans une première fenêtre, notamment France Canal+, puis une deuxième fenêtre, etc. Ensuite, il y a une troisième catégorie, c'est les deux intrus, on va dire, Apple et Amazon. Et Apple et Amazon, c'est encore autre chose, parce que leur enjeu n'est pas du tout le cinéma ou l'audience ou concurrence de Netflix. Les deux ont un enjeu, c'est la maison. Les deux essaient de bâtir un écosystème dans la maison. Alors, Amazon, c'est un peu différent, c'est le Kindle, c'est aux États-Unis, la vidéosurveillance, la santé, etc. Apple, c'est l'iPad, les AirPods, etc. etc. C'est moins sur la maison encore que ça pourrait venir. Et là-dedans, parmi les choses qu'il faut donner dans la maison, un peu de sécurité, un peu de livres, un peu de musique et des films. Mais disons, c'est un enjeu minuscule, microscopique pour eux. Et puis il y a une quatrième catégorie, c'est 90% des services qui représentent 5% du chiffre d'affaires. C'est toutes les offres des autres. Les filiales de chaînes de télé, les filiales de groupes de télécom, les services thématiques comme Filmo en France ou bien le Crunchyroll de Sony, qui eux ont une caractéristique très différente des trois autres, c'est qu'ils ne produisent pas. Ils sont très nombreux, ils sont très peu puissants et ils produisent pas. Alors par rapport au cinéma, le Netflix par exemple a effectivement eu une stratégie quantitative. Je fais tout d'un coup plein de films dont la plupart sont des daubes.
Et dont la plupart, de plus en plus maintenant, s'arrêtent ou en cours ou dont les...
Pas la plupart pour ceux qui s'arrêtent, mais disons que Netflix a une économie qui marche très bien, dans laquelle il faut de la profusion. Et alors ça, c'est, ils essayent bien sûr de faire des bons films, c'est pas... Et en plus, ils sont pas idiots, mais alors eux, ils ont eu un problème particulier, c'est que tout d'un coup, ils passaient d'une période où ils faisaient 4-5 films au début des années 2010 par an, qui étaient plutôt des films indépendants, qu'ils allaient acheter à Sundance, etc. Et tout d'un coup, ils sont mis à en faire 20, 30, 40, 50, jusqu'à plus de 100 par an, et ils avaient pas les... En fait, ils avaient pas les hommes et les femmes pour gérer ça. Si c'est des daubes, c'est pas parce que Netflix veut faire des daubes.
Parce qu'il y a un manque de moyens, peut-être humains, quoi.
Exactement. C'est que tout d'un coup, quand on fait 150 films par an, on ne peut pas les suivre. On ne va pas sur les tournages, etc. Donc Netflix a tordu la production cinématographique vers, on va dire, le bas de gamme. Malgré, bon, il y avait de temps en temps un David Fincher, un Scorsese, etc. Mais le reste, c'était... par contre, les autres, Disney, Warner, Universal, ils ont continué à faire des films comme avant, sans rien changer. Qui est plateforme ou pas plateforme, quand si vous prenez l'année 2023 qui est un peu exceptionnelle, enfin qui est remarquable pour ça, Barbie ou Oppenheimer, c'est des films qui auraient pu être faits il y a 10 ans sans les plateformes. Encore une fois, le cinéma est plastique, il ne change pas vraiment si vite que ça. Il y a toujours eu le cinéma français, il y a deux composantes, il y a deux cinémas français, il y a les comédies, c'est un cinquième des films produits et 55% de l'audience. Et puis il y a tout le reste, c'est 80% des films, et puis qui se partagent la moitié. Ça, c'était comme ça dans les années 30, et c'était comme ça dans les années 2030.
On va parler de ce que vous avez évoqué il y a quelques minutes, c'est-à-dire les jeux vidéo. Vous avez été un précurseur là-dessus, en tout cas pour le populariser à la télévision, mais même dès les années 80 ou 90,
oui.
À Canal+ et à France Télévisions.
Et chez Jacques Lang, que j'avais réussi à convertir.
Et avec Jacques Lang. Et puis, les jeux vidéo, aujourd'hui, on aurait tendance à le croire, se sont totalement imposés, démocratisés. Il y a des stars, en tout cas parmi les joueurs. Mais par contre, il n'y a pas de stars dans les concepteurs, dans les game designers. On voit que, alors on citait tout à l'heure David Fincher ou Martin Scorsese, qui sont des réalisateurs stars. Pourquoi est-ce que chez les créateurs de jeux vidéo, il n'y a pas de figure comme ça planétaire dont tout le monde connaîtrait le nom?
Alors, avant de répondre à la question pourquoi, juste une remarque, c'est que c'est pas vrai partout. Au Japon, le Japon a eu une... Il n'y a pas les droits d'auteur à la française au Japon. En revanche, il y a une attention aux créateurs qui est tout à fait différente. Ils avaient inventé un système qui était original, qui n'a pas été malheureusement copié à l'Occident. C'est qu'en fait, quand un créateur fait un jeu, on lui donne à lui une très grosse somme et il la répartit comme il veut avec ses collaborateurs. Ce principe, c'est une espèce de bonus, mais c'est souvent 10 ou 15% du budget du film. C'est des sommes énormes. Et donc, ça l'oblige à sélectionner autour de lui les gens qu'il aime bien, etc. Et cet argent n'est versé que si le jeu suivant est fait à temps. Ce système a été extrêmement vertueux. Et au Japon, la plupart des grands auteurs de jeux vidéo sont des stars. Ils sont interviewés, il y a des bouquins.
Et pourquoi pas chez nous, alors?
Alors,
pourtant, il y a beaucoup de joueurs.
Alors d'abord, il y a eu quand même quelques stars. On se rappelle de Pajitnov, le type qui avait fait Tetris. Il y avait Sid Meier. Il y en a eu, mais alors pourquoi? Alors,
parce Parce qu'on estime que c'est moins compliqué, c'est moins artistique de réaliser un jeu vidéo qu'un film.
Non, c'est, vous voyez,
que les scénaristes sont moins inventifs.
Je pense que c'est une raison politique. C'est qu'en fait, le cinéma s'est créé et c'est structuré dans les années 30, disons à l'époque de Roosevelt. Le jeu vidéo est un produit du néolibéralisme. La vraie raison, c'est que les patrons des boîtes de jeux vidéo, enfin singulièrement en France, ne voulaient pas de star system, ne voulaient surtout pas que les auteurs aillent les embêter, comme ils disaient, etc. C'était des patrons de PME à l'ancienne. Donc Bonnel. Les gens d'Ubisoft sont un petit peu différents. Là, les Bretons, ils ont, au contraire, même si ça se passe mal maintenant, mais ils ont starifié un peu un certain nombre de d'auteurs. Mais grosso modo, c'était des boîtes qui n'avaient pas cette culture propre à Hollywood et au cinéma français, des artistes par exemple, dès qu'il fallait faire de la musique, on se dépêchait d'aller les faire dans les pays de l'Est parce qu'il n'y avait pas la SACEM. Donc il y a un côté un petit peu avare de la production de jeux vidéo, austère. C'est des gens mal payés qui bossent énormément, qui n'ont pas de considération. Et ça, c'est la tradition. Alors il y a bien sûr, comme dans tout système, des exceptions, mais globalement, c'est une tradition très dure dans les relations de travail et dans laquelle il n'y a pas de place pour des auteurs ou pour reconnaître les talents. Alors il y a un autre facteur, c'est l'évolution permanente des techniques. Donc un auteur, un type comme Duvivier a fait des films muets, puis des films en noir et blanc, puis des films jusqu'aux années 60. Parce que fondamentalement, ça n'avait pas vraiment changé. Les caméras étaient différentes, les pellicules différentes, mais en gros, on faisait un film comme avant. Dans le jeu vidéo, non. Il y a des gens qui sont super forts à un moment pour imaginer comment la 3D... va être utilisé Alone in the Dark en France, etc. Mais simplement, 5 ans après, cette technique n'a plus d'intérêt, il y en a une autre. Et l'interface entre la création proprement dite et la technique, elle n'est pas la même nature dans le jeu vidéo et dans le cinéma.
Alors l'actualité de l'audiovisuel en France, plus récemment, il y a quelques jours, c'est Rachida Dati qui a déclaré qu'elle voulait fusionner l'audiovisuel public. C'est une déclaration qui n'a pas été saluée de manière très enthousiaste par les 5 précédents ministres de la culture français qui s'y sont tous opposés. Vous, je sais que vous êtes pour une sorte de création, alors vous n'avez pas ce terme, mais de grande plateforme européenne de services publics. Est-ce que vous seriez plutôt d'accord avec Rachida Dati qui essaye au niveau national d'effectuer une fusion?
Alors, cette histoire de fusion est une grosse bêtise. En fait. En réalité, le gouvernement, enfin depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, aurait pu remonter même avant sous Hollande, n'a aucune idée sur l'audiovisuel. Ils sont totalement ignorants, ils n'ont pas le goût. Sarkozy, il était interventionniste, il avait un côté un peu pop culture, quoi. Depuis Hollande, c'est plus le cas. Vous n'avez pas entendu un texte ou une présence de l'audiovisuel dans les multiples déclarations des premiers ministres quand ils arrivent, quels qu'ils soient, ça a disparu. Quand il a été élu, il y avait une plateforme qui a été rédigée sur un coin de table avec 3 idées. La holding, supprimer France 4, supprimer France O. Ces choses-là, personne ne les avait demandées, ça ne relève pas d'un besoin du secteur ou de gens qui, à l'extérieur, critiquaient le secteur. Et comme ils s'en fichaient, les différents ministres, en temps, quand un ministre de la Culture reste ou une ministre un an et demi, il y a un moment où l'Élysée ou Matignon dit « Oh, mais qu'est-ce que vous avez fait sur l'audiovisuel public ?» Alors les gens se disent « Merde, il faut que je fasse quelque chose. » Ils reprennent la plateforme de 2017 et de temps en temps, donc Riester l'a fait et ils sortent ce truc de holding. Mais on sait pas d'où ça vient. Il n'y a pas eu de réflexion, il n'y a pas Dieu sait que le gouvernement a beaucoup utilisé les cabinets de conseil, les McKinsey, etc., etc., mais il n'y a pas de rapport aboutissant à ça. Donc, c'est une mauvaise idée qui traîne dans un coin depuis 7 ans par des gens qui n'ont pas d'intérêt ou de goût pour le secteur. Mmh. Alors, pourquoi faire ça? Il y a une raison quand même. Si je
il reste une que, minute.
La raison, c'est que du point de vue des technocrates et des fonctionnaires, c'est quand même embêtant, effectivement, tous ces conseils d'administration. Il faut aller au conseil d'administration de l'INA, il faut aller à Arte France, France Télévisions, Radio France. Et donc, vu de l'État, c'est vrai que c'est un peu désordonné. Mais en revanche, d'un point de vue industriel, et surtout du point de vue des téléspectateurs et des auditeurs, il n'y a pas de demande.
Merci beaucoup, Alain Ledibérder, d'avoir été avec nous sur Radio J. Je vous souhaite une excellente continuation.
Merci.
Et peut-être un livre sur les États-Unis et leur système à la télé.